EMC TV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Mon Dieu, mon Père ». Et aujourd'hui, c'est Frank qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique famille, notre nouvelle chroniqueuse officielle, Nadine, nous parlera de l'importance du rôle du Père dans le foyer. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde.
Oh, bonjour Evelyne.
Ça va bien aujourd'hui?
Très bien, merci. Ça va,
super,
oui.
Nadine, bienvenue parmi nous.
Oui, bienvenue. Bienvenue Nadine. Hourra.
Mais vraiment béni.
Ah oui, une nouvelle chroniqueuse qui rejoint notre équipe de joyeux...
Chroniqueurs,
ouais, nous dirons ça. Donc Nadine, tu es Nadine Kabouya, je vais dire ton nom en entier. Je pense que les téléspectateurs te connaissent parce que tu es quand même déjà venue dans Bonjour chez vous, dans Parole de femme. Mm-hmm. Mais tu es l'épouse du pasteur Omer Kabouya et vous servez tous les deux ensemble dans l'église qui a été fondée par ton beau-père, le pasteur Joseph Kabouya, l'église La Citadelle à Montréal depuis pas mal d'années, j'imagine.
Dans l'année, l'église a fêté ses 22 ans.
Ses 22 ans, waouh, wow. Félicitations. Félicitations. Donc Nadine, tu es officiellement, tu fais partie de l'équipe, une nouvelle chroniqueuse. Donc les téléspectateurs vont te voir régulièrement avec nous. Et on est super content de t'avoir avec nous. Bienvenue dans Bonjour chez vous.
Merci.
Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu qui est certainement notre Dieu, mais qui est aussi notre Père. Et certaines personnes n'ont peut-être pas encore eu cette révélation de la paternité de Dieu, de cet amour de Père, de ce cœur de Père. Et aujourd'hui, ben, on espère que les téléspectateurs vont pouvoir terminer cette émission en ayant reçu justement cette révélation, cette assurance que Dieu est leur Père et qu'ils pourront l'appeler mon Père. Donc on en parle tout de suite dans la pensée du jour. Frank, le titre de ta pensée, la révolution de Dieu à Père.
Eh oui, Evelyne, parce que c'est ce qui s'est passé. Ça a été, je crois, une révolution pour les personnes qui ont entendu Jésus prier le Notre Père. Et ça, pour moi, j'aurais aimé ça voir le visage des disciples parce qu'ils ont dû être vraiment comme, wow, étonnés. Parce que oui, dans l'Ancien Testament, on peut voir un peu l'allusion de Dieu qui se présentait comme le Père de la nation d'Israël, mais les gens ne le percevaient pas comme leur Père un à un, pas du tout. Et puis là, Jésus a dit, voici comment vous devez prier notre Père. Et puis là, comme j'ai dit, j'aurais vraiment aimé voir leur visage parce qu'ils ont dû être vraiment étonnés. Ça a dû les bouleverser complètement. Moi, pour ma part, dans ma vie, ça a pris quelque temps avant que je réalise vraiment, si je peux dire ça comme ça, la dimension du Père, en fait. Parce que je priais à Dieu, toujours en l'appelant Dieu. Et c'est normal, Dieu est Dieu. Et on doit le respecter par rapport à qui il est, évidemment. Mais quand j'ai saisi le côté du Père, il veut vraiment être mon Père, ça a complètement tout changé dans ma vie, en fait. Et puis, pourquoi ça a été comme ça? Je sais pas. C'était juste comme ça. Il y avait pas eu le déclic, si je peux dire comme ça. En moi, j'avais pas eu la révélation par rapport à ça. Maintenant, le titre de la pensée, c'est la révolution de Dieu à Père. Pourquoi je l'ai nommé comme ça? C'est que une des définitions que j'ai trouvées d'une révolution, ça dit, une révolution est un changement, un bouleversement important et brusque dans la vie d'une nation. Et puis oui, dans la nation du peuple de Dieu, c'est ce qui est arrivé, c'est un bouleversement de comprendre cette dimension-là du Père. Jésus, évidemment, vous le savez, il est venu ici sur terre. Il est venu, premièrement, évidemment, pour donner sa vie pour le pardon des péchés de l'humanité, mais il est aussi venu nous montrer qui était Dieu. La parole nous dit qu'il était l'image du Dieu invisible. Et Hébreux, chapitre 1, le verset 3, la parole nous dit « Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne en soutenant toute chose par sa parole puissante » et ça continue. Il était le reflet de la gloire de Dieu. Il était Dieu sur terre et il est venu nous montrer, oui, quelle est la nature de Dieu, comment est-ce qu'il nous voit, c'est quoi son cœur vis-à-vis des êtres humains. Il est vraiment venu nous démontrer ça, mais il est aussi venu nous montrer comment que nous, on peut avoir une relation avec Dieu le Père. En fait, on peut voir au travers de lui, il est le Fils de Dieu, on peut voir comment Jésus vivait, il parlait constamment au Père. Il se levait le matin, il allait prier, il priait avec le Père. Il a dit, tout ce que je fais sur terre, c'est parce que mon Père me l'a montré. Et lorsque même il était un enfant, la parole nous dit dans Luc 2, verset 49, il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Il était conscient que Dieu, son père, était là et que lui, il avait quelque chose à faire ici sur terre. Il voulait être un bon intendant de ce que Dieu lui avait confié. Il avait la perception « mon père ». Oui, Dieu est Dieu, comme je l'ai dit, mais il a dit « mon père, il m'a chargé, il m'a donné des choses à faire et je veux les accomplir ». Il avait vraiment cette relation-là du fils avec le père et il prenait au sérieux ce que Dieu lui disait. Ça a commencé, je crois, vraiment à changer la mentalité des personnes qui étaient là. Les personnes ont dû commencer à se dire vraiment, mais waouh, c'est quoi qu'il apporte? Comment est-ce qu'il vit cette relation-là avec Dieu? Parce que pour eux, Dieu, c'était le Dieu que, une fois par année, ils allaient offrir des sacrifices pour le pardon des péchés. Dieu, c'était lui qui était comme éloigné, inatteignable, intouchable. Dieu, c'est Dieu. Ils savaient pas trop comment s'approcher de lui. C'était complètement différent. Et puis nous, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on a cet accès-là direct à Dieu. On peut l'appeler Père, on peut être près de lui. Il veut vraiment être celui, il veut devenir celui dans ta vie vers qui tu vas te tourner pour toute situation, toute circonstance. Un père, un bon père, même si tu n'en as pas eu un bon père, c'est celui vers qui tu vas pouvoir aller pleurer sur son épaule. C'est celui vers qui tu vas pouvoir lui dire tout, avoir confiance, sachant que oui, Dieu, ton père, il va vouloir prendre soin de toi. Matthieu 6, 33, Jésus avait dit, ne vous inquiétez pas de toutes ces choses. Et après ça, les versets précédents avaient dit, votre Père qui nourrit les oiseaux, il va prendre soin de vous. Il voulait vraiment apporter la mentalité de Dieu qui est le Père. Il veut prendre soin de vous. Moi, je suis rendu un homme et mon Père, il veut quand même prendre soin de moi. Il a un cœur de Père vis-à-vis de moi. J'ai un bon Père terrestre. Et j'ai cette image-là et je me dis, mais Dieu, il est encore meilleur. Il n'y a pas un Père sur terre qui est parfait, mais il est le meilleur des meilleurs Pères. Et quand tu dis Dieu, il veut être ton Père. Comme j'ai dit, je reviens au début de la pensée, ça a dû être un bouleversement. Et pour moi, dans ma propre vie, ça a commencé à l'être quand j'ai commencé, dans mes temps de prière, à dire Père. Je fermais les yeux et là, je m'approchais de lui et je disais Père. Et là, c'est comme si ça l'a changé. Le degré d'intimité était plus le même. Je parlais plus à Dieu, si je peux dire qu'il était loin. Il y a quelque chose qui s'est passé en moi, que j'ai vu Dieu différemment. J'ai commencé à le voir comme mon père. Et puis, c'est ça qu'on veut vous transmettre comme message aujourd'hui, que vous puissiez voir Dieu comme étant votre père, parce que c'est ce qu'il est. Si vous avez accepté Jésus dans votre vie, vous avez demandé le pardon pour tous vos péchés, vous êtes né de nouveau. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. C'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Quand tu nais de nouveau, tu deviens un fils et une fille de Dieu et Dieu veut être ton père. Il veut être celui vers qui tu vas te tourner. Il veut qu'il y ait cette proximité-là. Parce que comme je l'ai dit, je le répète, ça change tout dans une vie de prière. Ça change tout dans ta vie, en fait. Parce que tu le vois comme père. Père, tu veux mon bien. Tu veux être celui vers qui je me tourne en toutes circonstances, en toute situation. Et c'est vraiment ça, la révolution de Dieu à père. Mais ça a changé tout pour les disciples et Jésus l'a démontré ici sur terre. Il vivait d'une façon à faire ce que son père lui demandait de faire. C'était complètement différent. Et puis, voilà pour la révolution. Evelyne, qui a changé beaucoup de vie, je le crois, sur cette terre.
Amen, amen. Oui, c'est vraiment une révolution, c'est certain. On est passé au statut de fils et de fille de Dieu à partir de ce moment-là. C'est extraordinaire.
Ouais.
Et nous, on vit dans ce privilège. Et sans forcément en avoir pleinement conscience souvent. Puis aujourd'hui, c'est une belle opportunité de rendre vraiment grâce à Dieu pour ce privilège d'être appelé enfant de Dieu. Et on va regarder le verset du jour qui aujourd'hui est dans 1 Jean 3 au verset 1. « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu et nous le sommes. » Histoire de bien marteler, ouais. Oui, nous le sommes. Enfant de Dieu. C'est une grâce extraordinaire, je trouve.
Absolument. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir un bon père aussi, comme Frank. Mm-hmm. Je t'écoute parler, puis moi, j'ai grandi aussi avec son père, d'une certaine façon, parce que j'étais dans son église à partir de l'âge de 12 ans. Mm-hmm. Et puis, je peux témoigner que son père, qui est en fait mon oncle, bien, c'est un bon père aussi.
Oui.
Vraiment, le pasteur Daniel, c'est un homme vraiment rempli d'amour. C'est quelqu'un aussi très intègre.
Mm-hmm.
Je me souviens, quand je voyageais avec lui aux États-Unis, il est tellement intègre lorsqu'il passe à la douane. Et puis le douanier lui disait, est-ce que vous rapportez quelque chose? Et puis il allait déclarer même ses mouchoirs, là. Je sais pas, mais c'était comme un homme intègre, un homme qui aime le Seigneur de tout son cœur. Puis je sais, comme pour toi, c'est facile pour toi de voir notre Père Céleste comme étant un bon père parce que ton père est bon. Et c'est la même chose avec le mien. Moi, j'ai un bon père. Il a toujours été un modèle pour moi. Donc, je n'ai pas eu ce problème à m'identifier à Dieu comme étant un père.
Mm-hmm.
Parce que pour moi, mon père est bon, donc Dieu est bon. Et puis voilà. Il y a d'autres personnes peut-être qui ont eu un mauvais père, peut-être un père violent ou cruel. Ouais. Et puis quand on parle de Dieu comme étant notre père, bien là, les gens se rappellent, en tout cas, il y a d'autres images qui arrivent, là, et puis ils disent, est-ce que vraiment Dieu est mon père ou j'ai peur? J'ai pas simplement la crainte de Dieu, mais j'ai peur d'avoir une relation avec mon Dieu. Et je crois aujourd'hui, Dieu, ce qu'il veut faire, c'est changer l'image qu'on peut avoir de lui, qui est une mauvaise image, un mensonge en fait. Donc si on a eu un mauvais père, bien aujourd'hui, Dieu veut qu'on puisse vraiment se séparer de ce mensonge qui vient de l'ennemi, en fait, et qu'on puisse aujourd'hui recevoir la révélation que notre Père céleste, peu importe le Père terrestre qu'on a pu avoir, il est différent, il est rempli d'amour, il nous aime avec un amour éternel, et puis il veut nous faire du bien.
Oui, et tu parles de personnes qui ont eu justement des mauvais pères, et je crois que cette révélation de Dieu le Père amène justement les guérisons dans les cœurs, justement, qui ont été tellement blessés, tellement meurtris par un mauvais père, quand on réalise que tout à coup, en fait, on a un père au ciel. Et que même à l'époque où notre père était méchant avec nous, nous violentait, nous abusait, nous insultait, nous humiliait, on avait un père parfait au ciel qui nous aimait déjà à ce moment-là. Quand on a cette révélation-là, je crois vraiment que ça guérit le cœur des gens. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rester borné à se dire « Non, moi, je ne pourrai plus jamais appeler quelqu'un papa, père, ce mot a été banni de mon vocabulaire. » Il faut vraiment accepter de lever les yeux au ciel et accepter qu'on peut avoir un père qui est absolument parfait et merveilleux, qui nous aime au-delà de toute mesure, malgré justement ce mauvais modèle qu'on a eu. Il faut être capable de tirer un trait sur ce mauvais modèle de père et accepter d'ouvrir les yeux sur ce modèle parfait qu'on a au ciel, en fait.
Il y a certaines églises, même où on peut aller, où on voit que les gens ont cette relation avec un Dieu éloigné. Mm-hmm. Et ce qui nous aide quand on a une relation de Dieu comme un père, c'est bien sûr la proximité. Mm-hmm. Et souvent, quand on a une relation avec Dieu comme un simple Dieu, c'est beaucoup de lois. Et j'ai réalisé que les chrétiens qui n'ont pas cette relation avec le Père sont très légalistes. C'est beaucoup de... Ils voient Dieu comme un Dieu de loi, un Dieu de préceptes, un Dieu de commandements. Et au contraire, ceux qui l'ont comme un Père, eh bien la loi n'est pas vraiment ce qui les dirige. Ils sont dirigés par l'amour.
Exactement.
Moi, c'est le petit changement, là, ou le grand changement, la révolution.
La révolution.
C'est un grand changement. Ouais. Moi, je l'ai vécu à peu près à 19 ans. Quand Michael, un jour, on était assis sur un fauteuil, et il m'a dit, mais Jérémy, pourquoi dans tes prières, t'appelles tout le temps Dieu, l'éternel Dieu? Moi, je lui ai dit, pourquoi il me demande ça? Il me dit, mais Dieu, c'est aussi ton père. Et en fait, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, pourquoi j'appelle Dieu tout le temps éternel Dieu? Et j'ai vu dans plusieurs églises où j'ai eu l'occasion d'aller, dont une qui m'a vraiment marqué, où les gens, avant le moment de culte, il criait à Dieu, oh éternel Dieu. En fait, Dieu avait l'air tellement loin, tellement loin, on avait besoin de crier pour pouvoir peut-être lui parler et que peut-être il nous écoute un peu. Et finalement, j'avais reçu un bon message prophétique pour les aider. Que notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et en fait, on est constamment en communion avec notre Père dans notre cœur. Et je prie que ceux qui écoutent aujourd'hui puissent recevoir cette révélation, parce que c'est une révélation.
Ouais.
C'est une révolution, mais avant tout, c'est une révélation.
Ouais. C'est vrai.
La révélation du Père, parce que ça nous change nous-mêmes, en tant que fils, déjà, notre position de fils. Et peut-être que certains ne réussissent pas aussi à recevoir la révélation du Père, parce qu'ils se sentent comme des mauvais enfants.
Ouais.
C'est vrai qu'il y a des gens qui ont eu un mauvais père, mais il y a des gens qui se perçoivent comme étant de mauvais enfants, comme s'ils ne méritaient pas d'avoir un père.
C'est vrai.
Et aujourd'hui, le Seigneur veut guérir ces personnes-là, ou qui vous sentez être des mauvais enfants. Eh bien, Dieu est tellement bon, il est votre Père céleste et il veut prendre soin de vous et il vous aime d'un amour éternel. Et même, il nous dit dans sa parole à tellement de reprises que même si on s'éloignait de lui, il ne s'éloignera jamais.
Amen.
Même si on l'abandonnait, il resterait toujours là. Ouais. Il est fidèle, c'est un bon Père céleste. Et même si on a été des mauvais enfants, on connaît cette image du fils prodigue, c'est tellement puissant, c'est tellement glorieux.
Ouais.
Ce fils qui est là, qui a fait mourir son père avant l'âge, en prenant son héritage avant le moment, il va tout dépenser, il revient et le père est là et déjà il est déjà plein de joie, les bras grands ouverts. Aujourd'hui, il est là pour ceux aussi qui écoutent, vous êtes rétrograde et vous marchez plus avec le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu, il vous prend dans ses bras. Soyez remplis de son amour.
Amen. Pendant que tu parlais, j'avais pratiquement les mêmes choses à cœur. Vraiment, je crois vraiment qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont sous une condamnation, justement, et qui ne peuvent pas recevoir ce Dieu d'amour, ce Père pour eux, parce que justement, ils sont sans arrêt en train de se condamner, se sentant indignes, en fait, d'avoir un Père aussi merveilleux, aussi parfait. Et c'est une condamnation qui fait qu'il y a une intimité qui ne peut pas se créer dans des temps de prière, dans des moments, dans la présence de Dieu. Ça crée un barrage, en fait. La présence de Dieu ne peut pas venir sur ces personnes. Et pendant que tu parlais, j'avais vraiment une image de quelqu'un qui est simplement allongé sur son lit, avec un sourire extraordinaire, juste baignant dans cette intimité avec Dieu et recevant cet amour de Père, en fait, avec une totale simplicité. Dieu est un Dieu très simple. Il n'est pas dans tout un tas de protocoles. Et justement, quand on appelle Dieu éternel, Dieu tout-puissant, Dieu des armées, c'est vrai, on peut dans des temps d'adoration l'adorer de cette façon-là, parce que c'est une façon d'adorer. Mais quand on entre dans cette intimité, qu'on l'appelle simplement Père, et parfois juste dire Père, Papa, l'appeler simplement Papa, pour certains le mot Papa peut aussi changer les choses, on reçoit tout à coup cette dose d'amour qui enlève toute condamnation, justement, qui libère ce poids de je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, je n'ai pas fait assez ci, je ne suis pas digne, et ça libère complètement, et je crois vraiment à la maison, vous pouvez recevoir aujourd'hui cette libération de cette condamnation que le diable a mis sur vous pendant tellement d'années, vous faisant passer complètement à côté de cette relation intime que vous pouvez avoir, un fils, une fille, avec son papa, c'est cette relation-là. Et même si vous arrive de chuter, même si vous n'êtes pas toujours à la hauteur, même si parfois vous désobéissez à Dieu, un bon père, qu'est-ce qu'il fait? Il est là, les bras grands ouverts, toujours prêt, disponible pour ses enfants. Et c'est ce que Dieu veut faire vraiment pour vous.
Qu'est-ce que tu as dit? C'est exactement ça, ce que je voyais, c'est les personnes dans l'intimité, dans l'adoration même. Et de passer des temps, même juste comme à l'église, le fait d'être là et de pouvoir adorer Dieu de tout ton cœur, quand t'as pas saisi ce niveau d'intimité-là, comme de père, comme tu dis, moi, je l'ai vu par expérience, les gens sont comme bloqués, ils arrivent pas à rentrer dedans, c'est plus difficile, ils ont pas vécu cette intimité-là avec Dieu le Père. Puis ça, il faut que ça casse, il faut que ça brise, parce que les gens, ça reste, tu l'as vraiment bien dit, Jérémy, je voulais le dire, ça reste dans une quête de rechercher Dieu qui est loin, mais pourtant, il est tellement proche, mais en fait, le Saint-Esprit est en nous, tu sais, c'est... Ça change tout quand tu saisis l'intimité de Dieu le Père. Tu deviens que tu l'adores avec un nouveau zèle. C'est plus pareil quand tu lui parles. Ça change tout. Et comme te dit Michael, quand il prie juste pour sa nourriture, il dit « Père ». Là, tu sais qu'il parle à son Père. Il y a vraiment... Ça, c'est bien. Ça m'a marqué aussi dans sa vie, moi, ce côté-là du Père. C'est super, vraiment.
Ouais, vraiment. Gloire à Dieu. Bah, recevez vraiment cette révélation pour vous emmener à cette révolution. Amen. On va rester dans le domaine du Père. On va partir dans le domaine du Père spirituel et naturel avec toi, Nadine, dans la rubrique famille. Donc, Nadine, aujourd'hui, tu vas nous parler de ce modèle de Père qui est tellement important qu'on puisse avoir, c'est ça?
Oui, on va parler d'un Père, un modèle pour la vie. Alors, un Père est un modèle pour une vie réussie. Un Père est un exemple à suivre. Un Père nous sert de repère. Et dans cette société, des fois, qui se demande un père à quoi ça sert. Et aujourd'hui, on va parler de l'importance du père. Alors, comme tu l'as dit, il y a différents types de pères. Il y a le père biologique, évidemment, notre géniteur, celui qui a été la source de notre création. Il y a le père spirituel. Il y a c'est Paul qui dit de Timothée, mon fils légitime en la foi. Il y a le père d'un mouvement, d'une nation. On parle d'Abraham Lincoln, qui était le père vraiment de la nation américaine. Il y a le père d'un mouvement aussi. Par exemple, ici au Québec, on a le régime d'assurance maladie. Ben, le père de ce mouvement, Claude Castonguay, c'est la personne qui a pensé à ça et qui a tout fait pour le mettre en place. Donc, un père, c'est une source. Un père peut désigner beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous allons parler du père dans le cadre de la famille. Donc, c'est vraiment important de réaliser l'importance du père dans une famille, parce qu'on met beaucoup l'accent sur le rôle de la mère, qui est un rôle aussi important, parce qu'il part déjà dès la conception. La mère, elle vit la grossesse, la mère, elle a un lien fort avec l'enfant, de par l'allaitement, de par l'accouchement, de par le temps qu'elle passe avec l'enfant. Mais ça ne veut pas dire que le père n'a pas de place. Le père a une place primordiale, cruciale, une place vraiment décisive dans l'épanouissement d'un enfant. Et le rôle du père va au-delà de pourvoir, parce que c'est vrai que en tant qu'homme, on peut sentir qu'on a besoin de pourvoir, mais au-delà de pourvoir, il y a la présence de qualitative d'un père dans la vie d'un enfant fait toute la différence. Mmh. Pas juste la quantité de temps, mais la qualité du oui. temps qui est passé.
C'est important, excuse-moi de te couper, c'est important parce que je crois qu'il y a des personnes qui sont restées dans cette vieille école un peu justement du père qui pourvoit. Parce qu'à l'époque, la femme ne travaillait pas, l'homme travaille et son job, sa fonction première, c'était de pourvoir aux besoins financiers de la famille. Il doit y avoir toujours de la nourriture sur la table et il doit y avoir de l'argent dans le compte bancaire. Et pendant des années, ça a été ça. Et là, on entre dans une nouvelle ère où la femme ramène de l'argent aussi, etc. Et je pense qu'il y a des pères qui ont perdu justement un peu leur place, qui ne savent plus exactement comment se positionner. Et je pense, Nadine, avec cette rubrique, tu vas vraiment pouvoir éclaircir un petit peu ce rôle, cette importance du père qui n'est pas juste d'amener de la nourriture sur la table, en fait.
Non, vraiment. Si vous faites des recherches sur Internet ou même à la bibliothèque, vous allez voir, en psychologie, il y a énormément d'études sur l'importance de la présence d'un père dans une famille. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de plus en plus de familles monoparentales, soit par les circonstances de la vie, un décès, par exemple, ou par un divorce, et les parents n'ont pas gardé contact, et donc l'enfant est pénalisé, n'a pas de relation avec son père. Ou encore des pères qui sont présents, qui sont bien vivants, mais parce qu'ils travaillent beaucoup, parce qu'ils minimisent un peu leur rôle la vie quotidienne, ils sont tout simplement absents de la vie de leur enfant. Oui. Alors, quelques conséquences du manque de père dans la vie d'un enfant. On parle d'une faible estime de soi chez l'enfant. On parle d'un enfant qui n'a pas la présence de son père quotidien et plus prompt à l'agressivité, parce qu'il a beaucoup de colère internalisée, des moins bons résultats scolaires, et même il est plus susceptible aux mauvaises influences, la délinquance, la drogue, même la promiscuité.
Ah oui.
Toutes ces études ont été données par rapport aux conséquences de l'absence d'un père dans la vie d'un
c'est
enfant.
C'est important.
C'est très important. Et alors, on va se référer à la Bible, et on va voir un modèle d'un père qui était présent et les bénéfices de cela. On va voir dans Genèse au chapitre 22, le verset 1 à 8, je vais vous lire ça rapidement. Ça dit ceci. « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham dit, « Mon père, et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvra lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Abraham et Isaac, c'est une belle relation d'un modèle d'un bon père. Et que, messieurs, je vous invite vraiment à repasser à travers ce texte et méditer cela. On voit ici, déjà la Bible dit dans Proverbe 17:6 que les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Abraham est un modèle dans sa relation verticale avec Dieu. On dit qu'il a une bonne relation avec Dieu, il obéit à Dieu, Dieu lui parle et tout de suite, de bon matin, il se lève.
Oui.
Abraham est un adorateur et en tant que père, on doit aussi être modèle dans notre service à l'église.
Amen.
C'est pas juste dans le travail que nous faisons du lundi au vendredi, mais comment nous servons? Est-ce que dans l'église, est-ce que pendant le temps de louange, d'adoration, est-ce que nous levons les mains? Ou des fois dans l'église, vous allez voir que les femmes ont les mains levées, mais les hommes sont plus réservés.
Oui,
mais apprendre que oui, mon fils, un homme aussi adore aussi le Seigneur. Abraham a confiance en Dieu. Il dit, Dieu va se pourvoir. Et en tant qu'homme aussi, nos enfants nous regardent. Mmh. Comment est-ce que nous réagissons face aux pressions de la vie? Comment nous réagissons dans des temps de crise, dans la maison? Les enfants observent tous ces genres de choses. Et non seulement il est un modèle dans sa relation verticale, mais aussi dans sa relation horizontale. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il ne suffit pas de bien paraître à l'extérieur. C'est notre quotidien qui témoigne vraiment de notre caractère. Ce n'est pas les gens de l'extérieur, c'est les gens de la maison.
Amen.
Et Abraham a une relation avec son fils. La Bible dit qu'ils marchaient ensemble pour aller pour aller faire l'offrande. Donc, malgré la différence d'âge, il y avait une proximité. Abraham avait 100 ans quand Isaac est né. Il y avait une différence d'âge qu'il aurait pu dire, ben, je ne peux pas avoir une relation avec lui, mais il a fait l'effort d'établir une relation avec ce jeune homme.
Ah, j'avais jamais pensé à ça. C'est vrai. La différence d'âge était énorme.
Hein. Énorme.
Oui.
Ouais, il avait fait l'effort. Abraham était un instructeur aussi. Parce qu'il ne laisse pas juste l'instruction à la femme. Des fois, les hommes, on va laisser l'instruction à la maman. Mais Abraham avait montré à Isaac comment donner l'offrande. Parce qu'Isaac a dit, ah, mais il y a le bois, il y a le feu, mais il manque l'agneau. Donc, Isaac était au courant de la foi de son père, mais il savait aussi comment faire les choses.
Oui.
Et moi, je le vois, mes enfants, mes garçons, on a deux garçons. Et le dimanche, avec leur papa, ben, ils sont assez grands. Maintenant, ils ont 10 et 12 ans. Et ils vont s'habiller. Ils vont sortir leurs vêtements le samedi soir. Et le dimanche, ils vont dire, oh, papa, est-ce que ça, je mets avec une ceinture? Non, non, ça, tu enfiles pas. Il va dire, ben, il met ses chaussures. Oh non, ça, t'as pas besoin de chaussettes. Il utilise un chausse-pied. Il va lui montrer des choses au quotidien. Mm-hmm. Ce n'est pas juste des grandes révélations, mais dans la vie quotidienne, mm-hmm. un père est impliqué dans la vie de ses enfants et lui montre des choses.
C'est bien ça.
Abraham est aussi un confident. Mm-hmm. Un père est un confident parce qu'Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici, moi et le jeune homme, nous allons continuer. Il y a des choses dans la vie, en tant que père aussi, qui doivent prendre le bord, comme on dit à Québécois, derrière ceux qui ne doivent pas franchir. Mm-hmm. En tant que père, l'importance ou l'investissement qu'on a dans la vie de nos enfants doivent savoir qu'il y a un terrain, un territoire qui leur est réservé. En tant que père, tu peux dire, le cellulaire, après une certaine heure, ne rentre pas. C'est aussi un serviteur.
Le portable,
pour ceux qui écoutent de la France. Les amis ou les membres de l'église. Doit y avoir un temps que nos enfants doivent savoir que le samedi, c'est ma journée avec papa. Ou bien après 18 heures, papa, j'ai l'exclusivité de son temps. Et aussi, il y a une chose aussi qui est très importante à savoir, c'est qu'être un père, c'est une position d'autorité, mais c'est aussi une grande responsabilité.
Oui.
C'est une énorme responsabilité. Comme on a dit, la différence d'âge n'a pas empêché Abraham d'avoir une proximité avec son fils. Et même, des fois, aussi, la différence de tempérament. Il y a des parents, des papas qui peuvent dire, mais je le comprends pas, sa maman le comprend mieux. Et on utilisait ça comme une excuse pour ne pas s'investir dans la vie de leur enfant. Abraham était riche, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir une relation de proximité avec son fils. Les cadeaux ne changent pas la présence d'un père.
Amen.
Les jouets, les biens matériels ne remplacent pas le day-to-day, le quotidien qu'on peut vivre avec son enfant. Et c'est très important. Vraiment, quand je vous dis, c'est primordial, c'est crucial, c'est vital au développement, à l'épanouissement d'un enfant que la présence de son père. Alors, pour terminer, je vais vous partager deux petits témoignages. Tout d'abord, je parlais aux adultes qui souffrent de l'absence d'un père. On a dit au début de la rubrique qu'il y avait différents pères. Il y avait des pères spirituels, il y avait aussi des pères biologiques. Et j'avais parlé ici, il y a quelques temps, on avait fait une série sur la joie.
Oui.
Et j'avais parlé que j'avais perdu mon père biologique à un âge quand même assez crucial, un âge où je devenais une femme, où j'avais des questions. Et Dieu, dans sa grâce, m'a permis d'avoir d'autres pères. Le père n'est pas seulement un père biologique. Peut-être vous écoutez, vous n'avez pas d'enfant biologique et vous ne vous sentez pas concerné, mais vous pouvez être un père pour un jeune dans l'église qui lui a besoin d'encadrement. Vous pouvez être un père dans votre communauté. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir trois pères qui ont pris la place, je dirais, de mon père biologique quand il est parti. Comme je disais, c'était un âge crucial. Et quelques années après le décès de mon père, ben, je me suis mariée. Et mon grand-père, qui était biologiquement, c'est l'oncle de mon père, il est rentré avec moi à l'église. Il a pris ce rôle de père. Ah ben le voilà.
Ouais.
Il a pris ce rôle de père et rentré avec moi à l'église.
C'était magnifique.
Et pendant les années, les presque 20 ans qui ont suivi, ben il a servi ce rôle de père. Il a pu me renseigner sur quand j'avais des questions sur la culture, sur la famille, les valeurs de chez nous. Donc il a pu remplir ce rôle-là que mon père aurait dû faire, mais qui n'était pas là. Et bon, Dieu, dans sa sagesse et sa souveraineté, l'a repris il y a quelques semaines de cela. Mais il a été un père pour moi. Et à part lui, j'ai eu mon oncle Didier, qui est le petit frère de ma mère, qui aussi était un père qui m'a appris comment faire un CV, qui m'a appris comment faire des impôts. Pour dire, oui, tu peux aller chez le comptable, mais comment est-ce que tu calcules tes impôts? Qui m'a appris comment faire une entrevue. Quand j'avais ma première entrevue, ben, il m'a fait asseoir, il m'a posé des questions. Et puis, on a fait une entrevue ensemble, qui m'a guidée quand je devais aller à l'université, quel cours prendre. Donc, c'est aussi un père dans un certain domaine. Et évidemment, dans la vie spirituelle, si on a parlé de Paul et de Timothée, ben, j'ai mon beau-père, le docteur Kabuya, qui était un père pour moi parce que quand je suis arrivée à l'église, j'avais 13 ans. Et donc, j'ai grandi dans l'église. Avant d'être sa belle-fille, j'étais juste une membre de l'église, ne sachant pas qu'un jour, nous serons dans la même famille. Et il m'a baptisée. C'est lui qui m'a baptisée. Il m'a appris les rudiments de la foi, la doctrine. C'est avec lui que je l'ai fait. Jusqu'à aujourd'hui, quand je dois prêcher, ben, on se parle, puis j'apporte mes points. Ma première prédication, c'est lui qui m'a aidé à la monter. Et je me rappelle toujours, j'étais crispée, je tenais le papier comme si c'était une bouée de sauvetage. Et là, il était au fond de la salle, puis il me faisait, ouais, c'est bon. C'est bon.
Ah, wow.
Et il est un père pour moi. Donc, c'est de dire que même si vous n'avez pas eu un père, ne vous braquez pas en disant que ben, ça ne s'applique pas à moi, je n'ai pas de père. Regardez ma prière, vraiment que le Seigneur ouvre vos yeux pour voir autour de vous qui peut remplir ce rôle. Est-ce un pasteur? Est-ce un ami de la famille? Est-ce un prof d'école? Il y a quelqu'un qui peut vraiment vous aider à ce niveau-là. Et pour terminer, il y a Comme j'ai dit, j'ai grandi sans père et des fois, on se sent désemparé. Mm-hmm. Mais le Seigneur dit dans Ésaïe 49, verset 15, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » Et ce verset m'a porté pendant des années. Ouais. Et si vous souffrez de l'absence d'un père, sachez que ben, Dieu, c'est le meilleur des papas. Ouais.
Mmh. Amen. Amen. Quelle belle rubrique, Nadine. Merci. Mmh. Je vais revenir un tout petit peu au début de ta rubrique par rapport à ces conséquences de l'absence d'un père qui sont visibles vraiment. Et puis, on pense tous peut-être à des choses qu'on a pu voir à la télévision, aux informations, dans des cités ou dans différents endroits, la délinquance qui grossit. Et on se dit, mais souvent... Mais où est leur père? On voit ces jeunes qui traînent dans la rue jusqu'à point d'heure, etc. Où est leur papa? Où est leur papa pour leur inculquer la vie, en fait, pour en faire d'eux des hommes sur qui on pourra compter, pour leur enseigner à devenir justement des pères? Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Et j'ai beaucoup apprécié votre pensée ou votre enseignement parce que ça me faisait penser aussi à mes deux petites nièces.
Oui.
Non, pas de papa.
C'est vrai.
Et puis moi, j'étais, je pense, le premier monsieur à les tenir et ben, les prendre dans mes bras. Mm-hmm. Et je sais, je ne suis pas leur père, mais je peux remplir un certain rôle dans leur vie. Mm-hmm. Puis je trouve ça bien parce que c'est vrai, peut-être aujourd'hui, il y a des frères qui sont là qui réalisent qu'il y a des enfants dans leur église locale qui n'ont pas de père. Et puis, ils peuvent aussi répondre à l'appel de Dieu. C'est dans la prière. Je crois que Dieu va nous travailler puis nous donner un fardeau pour certains enfants. Mais je crois que, oui, on ne devrait pas juste comme se laisser comme décourager, dire « Ah, je n'ai pas de père » ou peut-être même une épouse ou une femme qui a perdu son mari. Peut-être elle est totalement comme défaite ou détruite en disant « Ben là, mes enfants ont perdu leur père ». Bon, il y a une certaine réalité, mais aussi Dieu peut pourvoir aussi. Et dans mon cas, moi, ben, j'aime mes deux petites nièces et puis je suis présent dans leur vie quand même. J'aimerais ça être encore plus, mais on a une vie aussi, hein. Dans 5 mois qui est là.
C'est ça.
Mais en fait, je trouve ça bien aussi de voir la proximité qu'on peut avoir même avec des enfants qui ne sont pas nos enfants biologiques. Et je crois que peut-être plusieurs personnes aussi qui sont là aujourd'hui peuvent réaliser que peut-être Dieu va se servir de leur vie pour être une bénédiction pour un enfant ou des enfants.
La paternité dépasse vraiment les liens du sang. Il ne s'agit pas juste de liens du sang, puisqu'on l'a dit, il y a des pères biologiques qui ne sont même pas des pères, qui ne méritent même pas le titre de père, il faut le dire. Et il y en a d'autres qui n'ont aucun lien de sang, puis finalement qui deviennent vraiment des vrais pères dans la vie de certains enfants, de même certains adultes. Hein. Je crois qu'on a besoin d'un père toute sa vie. Vous, Frank, Jérémy, vous êtes des pères. Ça vous parle, cette rubrique?
Oui. C'est très bon.
Vas-y, Jérémy, élabore, il y a quelque chose dans ton cœur.
C'est sûr qu'il y a quelque chose, mais il faut être patient,
oui,
Jérémy.
Oui, c'est ça, ça sort.
C'est ça, les pères. Pour aider les pères à bien remplir leur rôle, il y a un magnifique livre dans la parole de Dieu qui s'appelle les Proverbes. Mm-hmm. Dans les Proverbes, on voit que ce n'est pas seulement la maman, même si elle est là avec ce rôle d'instruction, mais le père est souvent là,
oui,
en parlant à son fils, mais ça pourrait être à sa fille aussi.
Mm-hmm.
Mon fils n'oublie pas mes préceptes, etc. Mm-hmm. C'est également la femme parle aussi. Et c'est un grand rôle à jouer de père, effectivement, tu en as parlé. C'est l'instruction.
Oui.
C'est l'instruction au quotidien, être présent. Et juste pendant que tu parlais, je ressentais un peu aussi qu'il y a des mamans qui sont en train d'écouter. Et qui ont commencé à dire à leur papa d'écouter.
Alors,
regarde, tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Tu fais pas bien, tu remplis pas bien ton rôle. Et on peut pas forcer un père à devenir père en fait.
C'est vrai.
Pour les femmes qui écoutent et qui ressentent que le mari ne tient pas son rôle ou sa position, ça va pas être à force de condamnation
ramacher.
Ou de c'est ça ou de mettre un poids sur lui. Qui va se sentir devenir père ou que ça va l'aider à devenir un père. Mmh. Je crois que c'est là, c'est vraiment la prière.
Vraiment.
La prière, notre remède, c'est de pouvoir prier pour lui, pour que Dieu lui donne aussi une révélation de son identité de père, parce qu'on n'est pas forcément avec ça. Et pour vous, hein, mesdames, parce que c'est vraiment une parole de connaissance pour plusieurs, qui êtes dans ce problème-là, vous vous sentez un peu seul à la maison. Vous dites, moi, je suis là, mais mon mari n'est pas là ou il n'est pas là présent dans la vie de mes enfants comme je le voudrais. Bien, priez pour lui.
Ouais.
Vraiment, priez pour lui parce que la prière change les choses. Et avec un bon cœur et parfois des bons conseils apportés au bon moment, ça va l'éclairer aussi. Des fois, les pères sont, ou les hommes sont plus lents Parfois, il y a
c'est
une démonstration.
Hein. C'est toi qui le dis.
Une démonstration. Mais par contre, quand on prend des décisions, normalement, c'est profond. C'est solide.
Une chose aussi importante, c'est qu'une femme qui est dans cette situation-là, bien, lorsqu'elle voit son mari être vraiment un bon père, elle peut célébrer cette chose qu'elle voit. Elle dit, ah, wow, mon mari était donc ben, merveilleux. Mais moi, j'ai vu le contraire aussi. Dans certains cas, j'ai vu une femme dénigrer son mari, déshonorer son mari devant les enfants et devant mon épouse et moi. Donc, on est en visite, puis elle disait, ah, il sera jamais un leader, tu vois, il prend pas sa place comme mari. Je me disais, bien, c'est à cause de toi en partie, parce que t'es en train de le déshonorer, donc comment est-ce qu'il va vraiment s'affirmer comme père quand tu le dénigres? Ouais. Donc, un mari veut être honoré, c'est biblique. Hein? La femme recherche l'amour premièrement, et le mari, bien, la Bible nous dit, femme, respectez votre mari. Donc, je crois aussi que la femme veut être respectée, et le mari veut être aimé aussi, mais vraiment, le besoin numéro un chez l'homme, c'est le sentiment d'être respecté. Donc, si la femme respecte son mari et lorsqu'elle voit une certaine victoire, puis elle dit « Ah, merci Seigneur » ou « Ah, merci mon mari d'avoir fait telle ou telle chose », bien là, elle est en train de contribuer à vraiment à la multiplication de ces bonnes occasions-là.
Et cas, moi, personnellement, pardon, Annabelle m'aide à être un bon père. Bon, je suis bon, etc., mais c'est vrai qu'elle m'a souvent aidé par ses conseils, par ses paroles, en me faisant comprendre des choses auxquelles j'aurais jamais pensé. J'aurais jamais pensé à des choses, mais elle est là dans la vie concrète. Et j'ai eu besoin de ses conseils. Mm-hmm. Ça m'a beaucoup aidé, vraiment. Des fois, j'ai eu besoin d'entendre ces choses-là.
Ouais. Je pense que pour plusieurs pères qui nous regardent, la charge est lourde. Parce qu'être un père, c'est vraiment une responsabilité, comme tu dis, Nadine.
Oui.
Puis moi, au début, mon premier fils, je me rappelle, s'il y avait 3 semaines, c'était un bébé, je m'étais dit... Là, c'est sérieux, là. je me rappelle
Qu'est-ce
de la scène.
Hein.
Non, mais c'est sérieux. Puis y en a qui sont jeunes, ils ont 25, 30, 35 ans, qui nous regardent, ils disent, mais la charge est lourde parce que tu te sens que tu as toute la pression du monde sur toi et tu te dis, j'ai mis quelqu'un au monde, dans ce monde, et puis là, je dois le diriger comme il faut.
Et c'est à vie.
Et puis, c'est pour la vie. Puis il y en a beaucoup qui disent aujourd'hui, j'ai souvent entendu ça, pourquoi j'aurais des enfants dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Puis tu te dis, mais t'as un enfant... Mais je veux t'encourager à prier parce que c'est là que Dieu va te donner la grâce, il va te donner les stratégies pour ton fils ou ta fille, peu importe c'est qui ou comment que tu en as. Et tu t'es appelé à être un repère, à être quelqu'un vers qui ils vont se tourner quand ils vont être adolescents, ils vont dire « Papa, lui, il agit comme ça. Maman est comme ça si vous êtes une mère aussi. » Mais surtout pour les pères, aujourd'hui, tu es appelé à être un exemple, un modèle, comme Paul l'a été pour Timothée. Il disait suis mon modèle, suis qu'est-ce que je fais. » Vraiment, je veux t'exhorter à prier parce que Dieu t'appelle à monter dans un autre niveau dans ta vie de papa. Vraiment, il veut faire quelque chose dans ta vie, vraiment. Puis vraiment, reçois les paroles aujourd'hui. Sois pas écrasé, sois pas accablé par toutes les pensées qui peuvent être là parce que oui, c'est une charge d'être un père, mais c'est une joie et c'est vraiment une grâce. Il y en a beaucoup qui voudraient l'être, qui sont pas capables pour X raisons, mais prends ça au sérieux puis sois pas écrasé. Vraiment, prie et Dieu va vraiment t'éclairer, je le crois.
Je crois une des choses que les enfants veulent vraiment aussi, c'est juste l'écoute. Des fois, je peux être dans le salon avec une de mes filles et puis ils vont me raconter leur journée puis ils me racontent plein d'histoires. Surtout Félicité, ma plus jeune, elle aime parler et puis elle me raconte plein de choses. Puis juste écouter, on n'est pas obligé de rien dire, on peut juste écouter. Puis le fait d'être reçu, bien, les enfants se sentent aimés aussi.
Ouais, c'est ça.
Exactement.
C'est tellement important.
Une présence qui est rassurante. Un père, je crois, pour les enfants, ça rassure de savoir que... Ouais. Mon papa est là. Si j'en ai besoin, il est là, il est disponible. Et je pense que ça peut vraiment libérer certains enfants de stress, d'angoisse. Ouais. C'est des enfants qui vivent beaucoup d'angoisse, qui sont très, très angoissés, très stressés. Mais je crois que juste de savoir que leur père est là en cas de besoin, c'est tellement rassurant,
c'est
en fait,
merveilleux,
pour un enfant.
Alléluia.
T'es touché, Frank?
Non. Je trouve ça cool parce que c'est vrai que ce qu'elle dit, je trouve ça bien. Moi, des fois, mon père, c'est ça, on s'est rapprochés surtout... quand en vieillissant, il était là, mon père aussi, tout ça, mais je trouve ça super d'avoir un père, comme tu dis, c'est vraiment ça, comme tu dis, c'est comme rassurant, c'est un père, il y a vraiment un beau rôle à avoir dans
sa vie. Oui, vraiment.
C'est super.
Vraiment. Donc, vous qui êtes père, qui nous écoutez, je pense que vous avez entendu plein de choses et puis peut-être que vous vous dites, oh là là, mais je me sens tellement pas à la hauteur, mais ne laissez pas la condamnation venir sur vous. Dieu, lorsqu'il vous a fait la grâce d'être père, il vous a aussi donné l'équipement nécessaire pour être un bon père. Donc, faites confiance à Dieu. Il a mis en vous tout ce qu'il fallait, c'est peut-être pas encore pleinement manifesté, mais en vous, vous avez tout ce qu'il faut pour être ce bon père pour vos enfants. Gloire à Dieu. Merci Nadine pour cette rubrique. Merci à vous tous pour cette belle émission. Et nous allons nous retrouver demain. Demain, nous parlerons de la réussite de ton projet ne dépend pas que de Dieu. Nous verrons que nous avons aussi notre rôle à jouer et nous aurons la rubrique Conseil du coach avec toi, Jérémy. Tu donneras donc des conseils, les 12 étapes d'un livre réussi. Donc, ami, auteur, écrivain ou futur écrivain, ne manquez pas cette émission. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.